Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 7 octobre, vous écoutez le Comic City 68, et avec moi, nous avons cette semaine Sam.
Salut.
Claire.
Bonjour.
Nono.
Bonjour les enfants.
Et Jean-Lô.
Bonjour les enfants.
Je viens de fumer.
C'est Jean-Lô le maniaque cette semaine. Non mais je voulais passer avant Nono pour pouvoir la faire, mais bon, tant pis, je suis passé après. Mais... On aura tous compris que je suis un prêtre irlandais instituteur dans le Nord. Voilà.
D'accord. Bunny n'est pas avec nous cette semaine, hein, comme prévu, il est en vacances.
Oh bah, mais arrêtez.
Mais qu'est-ce qui se passe, Jean-Loup ?
Je sais pas, il y avait des mariachis dans mon salon, ils ont entendu Bunny, ils étaient pas là, ils sont tous levés, ils ont fait de la musique. Bon bref, allons-y.
Donc, vous aurez tous compris que Jean-Loup prend de la drogue.
Ah oui, voilà. Il est sous acide.
Ça s'entend tant que ça.
Oui.
De toute façon, il est un peu de Jean-Loup. On l'entend tous dans Back to the Comics, hein, donc.
Ouais, parce que c'est avec ça qu'a fonctionné la Jean-Loréade.
Mais bien sûr.
À la coke.
Oui, parce que le plutonium, c'est trop cher, donc. Tu vas me dire, la coke, c'est bon marché en ce moment, donc.
Alors, bien au courant.
Tes amis pakistanais refusent de te faire des prix, c'est ça?
Si, si, au contraire. Mais je suis pas sûr qu'il le coupe pas avec de la lessive parce que ça m'atteint un peu le cerveau.
Attention à ce qu'il te retrouve pas, hein. On sait jamais.
Bah, tant qu'il a une DeLorean à porter, ça va.
Ouais, une et un pas mal. Bien, eh bien, nous allons commencer les news de la semaine. À venir au programme donc du Marvel et du DC, et aussi d'autres choses. Puisque finalement, d'autres maisons d'édition ont survécu au mois de septembre.
Oui, d'autres maisons d'édition qui existent en dehors de DC.
Non mais
on va commencer par DC.
Mais bon, pour les news, hein, on va parler de DC, et donc c'est Sam qui va nous parler des news.
Alors, une info qui est sortie il y a quelques jours de cela, le remplacement de l'équipe créative de Superman.
Ouh, oh, déjà
6 épisodes.
Ah.
Donc ouais, je commencerai au numéro 7.
C'est ça, moi aussi.
À voilà, qui donc... je mets un coup de pied dans les dents.
Bah, vu que la seule personne à côté de toi, c'est Claire, je t'en prie.
Et bien, écoute,
ça va aller, merci.
Le premier podcast est denté.
Donc le scénariste George Perez est remplacé par Keith Giffen. Et le dessinateur est Jesus Merino.
Et moi, j'avais une blague. Et qu'est-ce qu'il fait, Keith Giffen?
Oh là.
Tu sors.
Non, nous n'allons pas la retenir, cette blague, en fait.
Oui.
Donc, ça sera toujours le même dessinateur. Hein.
C'est bien parce qu'on sait que Nono a le même fournisseur que Jean-Lô.
Il est remplacé par Dan Jurgens.
Ah, d'accord.
Donc, en gros, c'est toute l'équipe de Green Arrow qui débarque sur Superman.
D'accord. Et qui débarque sur Green Arrow?
Bah, toujours le même.
Bah non, ça fait deux comics pourris, maintenant.
Je ne sais pas, je lis pas Green Arrow.
J'ai pas lu non plus.
Et on en parlera tout à l'heure.
Bah ça, c'était un vrai truc pourri. Mais bon, bref.
Enfin, bon, je dirais, c'est assez étonnant de voir une équipe créative partir aussi vite.
Mais moi, je me demande si c'est pas le thème de son premier épisode qui a dérangé un petit peu DC.
Ouais.
Dire, ah ouais, tu préférais avant? Bah, casse-toi.
En même temps, ils auraient pu le virer avant.
Ah non, parce qu'il a...
On fait quand même plusieurs mois qu'ils ont les scripts. Hein. Donc, à moins qu'ils les lisent pas, ce qui est tout à fait possible. Hein.
Ouais, vu la qualité de Superman, ouais, à mon avis, ils l'ont pas lu.
Je pense que Danny Dio attend d'avoir le comic en main, tu sais, pour le lire. Il lit pas le script.
Trop long.
Oui, voilà, c'est ça. Mais je pense, en fait, j'y réfléchis cette semaine, je me suis dit, ça se trouve, c'est pour ça. Georges Perret, ça fait un truc super long à lire pour pas que les gens d'ici le lisent et qu'ils puissent raconter ce qu'ils voulaient dedans. Et donc, voilà, ça t'a créé à l'intérieur.
Mais je sais pas, peut-être que la taille de son script, c'est l'équivalent de ça. De Stephen King.
Ah, d'accord.
Oui, non, mais oui. Pas ça, mais il n'y a pas de visuel, là. C'est...
Oui, bah oui, c'est ça, je me disais, mais putain, qu'est-ce qu'il montre?
Il montre un truc sur son ordinateur, mais Steve, on n'est pas avec toi.
J'étais surtout en train de m'imaginer de quelle taille il parlait, tu vois.
La taille d'un gros roman de...
De quoi ça parlait, c'est ça?
Oui. Bon, bref. D'ailleurs, en parlant de Superman, je voulais remercier tous les auditeurs qui sont venus nous donner notre avis. Pardon. le vieux lapsus bizarre qui sont venus nous donner leur avis sur le dernier podcast par rapport au Superman et de voir que beaucoup se sont rangés au nôtre. D'où la confusion.
Ah oui.
Donc, oui, bah, au nôtre, c'est-à-dire Sam, Jean-Lô et moi. Hein.
Voilà, donc c'est bien ce que je disais lors d'un précédent podcast. L'avis des auditeurs, je m'en fous.
Dommage, bon, moi je vous aime bien quand même, parce que il y en a beaucoup qui sont d'accord avec moi aussi sur les 10 titres et tout, donc bon, vous avez le droit d'aimer Superman si vous avez aimé des titres que j'ai bien aimés aussi.
Bah alors ça c'est pas du tout fasciste.
Non. C'est plus gentil que Jean-Loup qui en a rien à foutre des auditeurs.
Non, c'est pas Jean-Loup.
Au contraire, venez.
Non, Jean-Loup, il est saoul. Il leur parle tellement qu'à force, ils font bon, ok, d'accord, c'est bien.
Bon. Ah, mais c'est moi, il y a le GPD.
Mais c'est quoi cet accent?
C'est du racisme.
C'est non, surtout du n'importe quoi ce podcast, les enfants, là. Ça se barre en live. Non, en tout cas, non, merci à vous de venir vous partager votre avis avec nous donner votre avis, et ça fait vraiment plaisir de lire d'autres avis qui sont pas forcément, enfin, vous avez pas forcément aimé pour les mêmes raisons que nous.
Mais qui sont les mêmes que nous, ça c'est bien.
Ou vous avez les mêmes raisons que nous, mais vous avez pas forcément vu les mêmes choses, ou pas dit avec les mêmes mots, etc. Et donc, enfin, ça fait vraiment plaisir de lire vos avis, même s'ils sont négatifs, de voir ce que vous en pensez aussi. Donc, je tenais à vous remercier tous.
Ouais, allez, merci.
Merci. À chaque fois qu'on a un commentaire, on reçoit, enfin pas tous, mais on reçoit le mail qui nous dit qu'on a un commentaire. Et moi, en fait, j'adore lire ces mails-là à chaque fois, de voir le petit commentaire, ce que vous avez mis. Enfin, c'est toujours super. Comment dire? Ça nous fait toujours énormément plaisir, en fait, vos commentaires. Donc, continuez, voilà. Non, chut.
Allez, on passe à la suite des news.
Alors, on sort un peu des comics, mais quand même en lien, puisque la semaine dernière, on a annoncé, enfin, dans la semaine en cours, on a annoncé au MIP Junior de Cannes que Batman allait avoir une nouvelle série animée, avec un titre génial de Beware the Batman.
Ouais, c'est dommage, parce que ça veut dire, enfin, on le savait déjà, hein, que Raven the Bold n'était pas reconduit. Moi, j'aime beaucoup cette série.
Moi, j'ai jamais accroché. Je sais pas, l'ambiance 60s, moi, me...
Ah bah moi, justement, c'était tout l'intérêt pour moi.
Ça ne l'est pas.
Je sais pas si vous l'avez vu, Claire, Nono, Sam...
Non.
Claire, Nono et Jean-Lo, pardon.
Moi, si, j'en ai vu un peu.
Non, moi, j'ai pas vu.
Bah, ça passait sur France 4, je ne sais pas si ça passe encore.
Il me semble, oui.
J'ai vu la télé ces derniers temps, mais je sais que pendant l'été, vous pouviez aller voir sur France 4, généralement le dimanche matin, si jamais vous savez pas quoi faire. Vous pouvez toujours essayer de regarder France 4 et essayer de tomber sur Brave and the Ball, appelé l'Alliance des héros en français.
Ouais, France 4 d'ailleurs qui sort pas mal de séries animées de super-héros en ce moment. Ouais.
Les Avengers aussi.
Oui,
ouais. Ça j'ai vu le jour.
Bah, c'est souvent, je crois que le matin, il y a tout
de suite. Oui, ce lundi matin ou ce dimanche matin. Quand je dors, quoi.
Toute une suite de super-héros.
Bah, pour les gens qui n'ont pas Cartoon Network ou qui n'ont pas Disney XD, qui sont les chaînes du câble sur lesquelles les
séries... Non mais Disney XD, c'est pas mal aussi, ouais. C'est une chaîne de films.
Je suis encore malade, excusez-moi, hein. Je ne le fais pas exprès. Voilà, ça permet de les voir en hertien, enfin en hertien.
En TNT tien.
Disons voilà.
C'est numérique, monsieur.
Tout le monde peut arriver à peu près à avoir cette chaîne, quoi.
Ouais.
Sauf les gens dans les zones blanches.
Bon, il y en a de moins en moins, quand même.
Ouais, parce que bientôt ils auront plus du tout la télé, donc ils ont intérêt à passer à la TNT.
Ah bah, il y en a qui n'ont plus la télé. Déjà. Ouais. C'est déjà le cas.
Tant pis pour
eux. Je les plains, les pauvres.
Non, les chanceux.
Non, mais les pauvres, parce qu'ils n'ont pas le choix. Si on a le choix de pas avoir la télé parce qu'on ne la veut pas, ouais, mais quand on ne peut plus avoir la télé parce que ça ne marche pas.
Ouais, oui.
C'est juste un nouveau débat chez Comic City.
Non, mais c'est...
contre la télé.
Ça, c'est tellement dommage de rater tout ça. C'est les réalités. Bref.
Bref, la nouvelle série, on a déjà des infos sur qui sera derrière, Sam?
Qui sera derrière Sam? C'est quoi cette question?
Vous allez tout déformer, en fait.
Ils ont l'esprit là, tourné, c'est pour ça.
Ouais. Plutôt, ouais. On sait pas, donc, si ce sera les mêmes équipes créatives que d'habitude.
Ça, je ne sais pas. Ils ont annoncé un nom, mais je connais pas. Donc,
il y a un
nouveau nom asiatique, donc,
C'est prévu pour quand?
2013.
Ah oui, d'accord.
Alors, ça sera en CGI, comme la nouvelle série Green Lantern.
Ouais.
J'ai vu les premières images, je suis pas super accro pour le moment. Et la seule info qu'on a, c'est que un personnage féminin du nom de Katana sera le sidekick de Batman.
Bah oui, Katana des Outsiders.
C'est pas encore confirmé, ça.
Bah, j'imagine que c'est Katana des Outsiders, quoi. Enfin,
j'imagine.
Je vois pas qui ça pourrait être.
Et vu la tendance qu'ils ont dans les animés à toujours créer de nouveaux personnages, à voir.
On en reparle quand on aura plus d'infos. La dernière news de la semaine, c'est le classement des ventes.
Alors, on n'a pas les chiffres pour le moment, mais on a le top 100 Et donc, comme on pouvait s'y attendre, eh ben, DC écrase Marvel. Complètement.
C'est même au-delà de l'écrasement, là.
Ben, grosso modo, ils ont mis en part de marché 10 points dans la vue de Marvel.
Oh putain.
Ça s'appelle de l'éclatage de gueule à ce niveau-là.
Ouais, grave.
Disons que normalement, c'est Marvel qui a 10 points d'avance, et là, c'est DC.
C'est un FF, mais sans vaseline.
Voilà.
Bah, disons qu'en même temps, c'est logique.
Ouais.
Oui. Mais en même temps, c'est Bleeding Cool qui l'a signalé. DC avait beaucoup moins de titres que Marvel en septembre, puisque Marvel a dû sortir quelque chose comme 80 ou 90 titres.
Oh la vache.
Alors que DC, on en avait que 52.
Ouais. Ouais, mais quand tu regardes, par exemple, c'est le top 20, t'as que 3 titres Marvel, quoi.
Dont Fear Itself, dont je ne sais pas pourquoi, est toujours de 8e. C'est un mystère total pour moi. Hein.
Donc ils en ont quand même placé un dans le top 10.
Ouais, deux. Même deux, puisque il y a Ultimate Spider-Man.
Ce qui est justifié.
Mais quand même, Fear Itself devant le reboot de Ultimate Spider-Man.
Là, ça l'est moins, déjà.
C'est un mystère, je sais pas. C'est bon. On voit quand même que les plus gros titres, bah, ça reste les grosses franchises, hein. Batman, Superman, Green Lantern, Flash.
J'imagine que le numéro 1, c'est Justice League.
Non, parce que Justice League est sorti en août, mon ami.
Ah, malin, malin.
Donc c'est Batman qui prend la tête.
Ouais. Donc ça ne fait que 51 titres d'essai.
Ouais. Bah non, 51, c'est ça. En plus.
Voilà.
Et les derniers titres en termes de vente, enfin on n'a pas les chiffres mais dans le classement, bah c'est ceux auxquels on s'attendait, c'est Omac, Men of War, Static Shock, E-Vampire, Black Ops. Donc en gros tous ceux à quoi on s'attendait tout en bas.
D'accord. Ouais.
Par contre je suis content de voir que All Star Western est plutôt bien cassé.
Oui mais John X a toujours bien marché, enfin relativement bien marché, à bonne réputation. En plus bon ça restait la même équipe.
Ah non,
créative,
au contraire. C'était complètement en dehors du top 100. Je crois que ça s'est vendu à moins de 10 000 exemplaires. En fait, c'était vraiment une faible vente, mais qui était
soutenue. Pourtant, ça continuait.
Ouais, mais en fait, c'était soutenu par Dan Didio. C'est pour ça.
Ouais, d'accord.
Didio était complètement fan, donc disait pas touche.
Ah, c'est dommage parce qu'il était plutôt bon. Hein.
Oui, c'est vrai. Il avait une très bonne presse, une très bonne critique, mais je crois qu'il manquait juste le point d'entrée pour les lecteurs. Et c'est ce que le relaunch a fait.
Alors là, vous encensez Dan Didio, mais sur Mac, vous l'aimez pas. Bizarre.
Je sais pas, j'ai pas lu au Mac, donc je peux pas descendre.
Ah, c'est pas si mal que ça, c'est juste très confus, mais j'attends le 2 pour voir. Bien, et bien ça conclut nos news de la semaine. On va passer maintenant au review solo avec Nono.
Oui, c'est moi qui commence avec le Moon Knight 6. Au scénario, toujours Brian Michael Bendis. Au dessin, toujours Alex Maliv, et à la colorisation, toujours Matthew Wilson. Alors, on change pas une équipe qui gagne, parce qu'il est, Moon Knight arrive à bien se placer en règle générale dans le top des ventes. Donc là, on continue, en fait, sur la suite du premier arc, on va dire. C'est un arc qui vraiment continue. Là, on en est donc au 6e, il est toujours pas fini.
Ah, quand même, ouais.
Ouais, c'est toujours la même histoire en fait là pour l'instant. Donc Moon Knight a pris ses quartiers à Los Angeles. Il a recruté un nouvel agent technique, on va dire, pour l'aider à décrypter le casque d'Ultron qu'il a volé au Kaïd de Los Angeles. Kaïd qui fait sa première apparition et je ne sais pas qui c'est. Je crois que je suis le seul à l'avoir lu.
Ah oui.
Bon,
oui.
Steve, tu devais le dire, mais t'as pas eu le temps.
Ouais,
ça
mais c'est qu'en fait j'ai aussi quelques numéros de retard et j'avais pas le temps de les rattraper pour ce soir.
D'accord, donc le Kaïd fait son apparition, c'est un mec qui vole, sa première apparition, j'ai pensé que c'était Superman, et je me suis dit, non, on est chez Marvel.
T'as voulu faire une claire, donc.
Voilà. Non, mais
puisque se tromper de maison d'édition, chez nous, ça s'appelle faire une claire.
Le mec descend d'un toit, il a une grande cape rouge, on voit pas son visage, on distingue pas vraiment son costume, mais il est juste un costume, on voit en contre-jour très sombre, avec juste un triangle jaune sur la poitrine.
Est-ce qu'il a une capuche?
Non.
Sinon, j'aurais dit c'est The Hood, avec Michael Bendis.
Non, voilà. Mais il a un œil, il a une espèce de monocle hyper brillant.
Mais on le voyait déjà dans le 2, en fait.
Ah oui, je m'en souviens.
À la fin du 2, mais on le voyait en ombre, le mec avec le monocle.
D'accord, bah là, voilà. Là, on le voit bien, mais pareil, on distingue pas sa face et on sait pas son nom. Donc, je sais pas si c'est un ennemi connu ou pas.
Mais je dirais comme ça, enfin, avec le visuel que je me rappelle du 2, maintenant, je peux peut-être dire une grosse connerie, hein, puis j'ai pas revu l'épisode depuis très longtemps. Voilà, le comte
Nefaria.
Le comte Nefaria, ouais, le mec des X-Men 94-95, quoi.
Qu'on avait revu dans le nouvel Avengers final.
Eh oui, effectivement, oui, c'est ça, on l'avait revu dans le Finally, exactement.
Ben, peut-être, mais je peux...
Le père de Madame Masque, je crois, voilà. Donc.
Je peux pas vous dire si c'est vraiment lui, son nom n'est pas cité. Par contre, il inspire vraiment la terreur, et il va dessouder les méchants... qui était en charge d'arrêter Moon Knight et Echo. Et l'épisode est très intéressant parce que ça joue encore sur la schizophrénie de Moon Knight. C'est-à-dire qu'il y a Echo, il se réveille, il a Echo devant lui, il lui demande ben, est-ce que t'es vraiment réel. Donc elle le prend super mal vu qu'ils se sont embrassés quand même dans l'épisode d'avant.
Mais elle s'est fait tout le monde hein, quand même.
Ouais, c'est une grosse salope. Et
Mais tu te rappelles, elle s'est fait Matt Murdock, elle s'est fait Hawkeye. La série New Avengers, maintenant c'est.
Il fallait bien remplacer Black Widow maintenant qu'elle est casée avec Bucky.
Bah ouais, mais en même temps, maintenant elle est veuve, donc. Encore. Donc voilà. Et puis on joue vraiment avec sa schizophrénie, c'est assez drôle. Par contre, au niveau dessin, c'est un Maliv un peu en dessous de ce qu'il fait. Mais depuis le début de la série Moon Knight, il est un poil en dessous de ce qu'il fait d'habitude, de ce qui nous a habitué. Pour moi, c'est un bail. On a vraiment l'impression que ça va se conclure dans l'épisode d'après. Je vais pas révéler les dernières pages parce que c'est pareil, c'est à la fois très drôle et ça engage bien pour la suite. Donc voilà, pour moi, c'est un bail. La série, le relaunch de Moon Knight est un bail.
Ok, très bien. La suite, c'est clair.
Alors moi, cette semaine, j'ai choisi de vous parler de Swamp Thing, numéro 2, par Scott Snyder et Yannick Paquette. Donc on avait fait le numéro 1 le mois dernier, qu'on avait dans l'ensemble plutôt apprécié, même si le démarrage était lent. Et effectivement, il faut vraiment attendre ce numéro 2 pour voir réellement commencer toute l'intrigue de l'histoire. Dans ce numéro 2, on suit en fait Swamp Thing, qui est incarné par Rogers. Alors je ne sais pas si dans l'histoire des Swamp Thing ça vous parle ou pas, parce que moi je connais pas.
Je connais pas idem.
Ah, c'est Alex Holland à la base, Swamp Thing.
Oui, mais là Alec. Non, en fait. Alec. À la fin du numéro 1, si vous vous rappelez bien, Alec Holland y rencontrait un Swamp Thing, et donc là en fait on a le nom de ce Swamp Thing qui s'appelle, sans moi c'est compliqué, bref, son nom de famille c'est Rogers. Et donc en fait il vient pour adresser un message à Alec Holland du fait de sa prédisposition pour la nature. Donc je sais pas si en français on dit la nature, enfin c'est le green, quoi.
Le bio.
Oui, enfin je sais pas vraiment. On va dire la nature, ça fait très bien. Et en fait, il va le mettre en garde parce qu'il y a un grand ennemi qui est arrivé. En fait, il va demander à Alec Holland si il veut bien redevenir un Swamp Thing. Enfin, pas vraiment redevenir, mais carrément devenir un Swamp Thing, parce que finalement, on apprend que ce qu'il était avant, c'était pas un vrai Swamp Thing. L'intérêt de ce comics, c'est vraiment de, c'est mis en place l'intrigue. On a le choix d'Alec, savoir si oui ou non il va accepter. On a les personnages ennemis qui apparaissent. Et tout cela est magnifiquement dessiné par Yannick Paquette. Donc, franchement, c'est un pur bail.
D'accord. Quelqu'un l'a lu ou pas?
Je l'ai lu. Et j'ai bien aimé. Alors que j'avais pas du tout aimé le premier parce que, franchement, moi, quand j'avais fini l'épisode, je me suis dit, d'accord, mais c'est quoi l'histoire? Voilà, c'est toujours sympa, c'est jamais bon signe, hein, je pense. Ouais. Voilà, et là, j'ai compris. On a les bases qui sont enfin données. Donc, je dirais, il aurait mieux fallu fusionner, je dirais, le 1 et le 2 pour faire un bon gros premier épisode de 40 pages. Au moins, on aurait eu quelque chose de solide.
Tu allais dire quelque chose, Zorlo?
Oui, non, j'ai juste demandé à Claire si elle avait pris des notes parce que j'ai trouvé ça très limpide. Cette semaine.
Oui.
Elle a rédigé.
Oui, j'ai pris des notes. J'ai préparé avant. J'avais mis des petits traits. Très prédisposition au green. Le Parlement. Bien. Ah oui, je n'ai pas parlé du Parlement.
C'est comme ça que je fais, moi. Je prépare mes
notes. Oui, j'ai pris des notes, oui, parce que
je devrais faire pareil.
Les autres semaines, c'était pas aussi clair et du coup, c'est vrai que c'est plus pratique quand même pour les auditeurs.
Alors, les blagues sur Claire sont moins drôles quand elles viennent de toi.
N'est-ce pas? En fait, je prends les devants. Comme ça, je sais qu'il n'y en aura pas de fête derrière.
Tu prends qui tu veux.
Et par derrière, qui tu veux aussi.
Voilà. Et on ne dit pas prendre, mais recevoir.
Oh! Que c'est bien tourné. Donc, un gros bail.
Ah oui, vraiment.
Le suivant, c'est Sam.
Donc, je fais personnellement X-Men Schisme 5. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai traité les 4 premiers heures en Unspoken, mais cette fois-ci, je le fais en review solo.
Et en audio, ça veut dire que ça a pris du grade, attention. Pas que les Unspoken sont des sous-reviews, loin de là, mais...
Non, on a très bien compris ce que tu voulais dire.
Oui, je me suis rendu compte après, je me suis dit, merde, ça peut être mal interprété.
Déjà que t'en écris pas, hein.
J'ai pas le temps, monsieur, j'ai des montages à faire, voilà.
Mais il faut arrêter de dormir 2 heures par nuit, tu pourras écrire.
Ah, mais ça veut dire que je dors plus par nuit, alors.
Et c'était le sens du message. Ça sert à quoi de dormir en plus?
À rien.
À pas mourir.
Donc, bah, je vais quand même reprendre ma review quand même.
Quand même.
Donc,
on a qu'à passer à la mienne.
Là où on avait laissé à l'épisode 4, c'est-à-dire le combat entre Scott et Logan qui a enfin commencé après 4 épisodes super lents. On y arrive enfin. Donc les deux se bastonnent à mort alors qu'ils ont au-dessus d'eux une sentinelle qui est tuée et de détruire Utopia. Donc c'est vraiment le moment. Donc toute l'idée derrière le débat, c'est que il y a plus de X-Men sur Utopia. Il y a une gigantesque sentinelle qui arrive pour détruire l'île. Il reste plus que Cyclope et tous les jeunes mutants, enfin des ados. Wolverine arrive et lui dit « Ok, on se le fait à deux, mais tu dis à tous les jeunes de dégager. » Enfin, d'évacuer l'île, quoi, carrément. Mm-hmm. Et Scott lui dit, hors de question, c'est à nous, c'est notre île, donc on reste et on se bat. Donc Logan qui est pas du tout content, parce qu'en même temps, t'as Hope et tous les jeunes qui arrivent et qui disent « Oui, c'est notre île, c'est à nous. » D'ailleurs, il y a un excellent tie-in dans Génération Hope, disent oui c'est un rocher stupide mais c'est notre rocher à nous. C'est con mais c'est vrai. Donc en gros les 10 premières pages c'est Scott et Logan qui se fightent bien comme il faut. Puis les jeunes arrivent et là il se passe des trucs. Voilà.
D'accord. Oh. Dit comme ça tout de suite là.
Donc on peut comprendre que ça bouge enfin sur Schisme.
Alors est-ce que les le problème c'est que pour moi ça c'est plus une lecture de trade que de single.
Ouais,
très clairement. C'est-à-dire que les 4 premiers épisodes jusqu'aux dernières pages du 4, c'est lent et c'est chiant. Faut quand même le dire. C'est-à-dire que ça met en place, mais d'une manière extraordinairement lente. Et voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment un truc à lire en trade. Si vous lisez en single comme moi, mais vous allez vous faire chier comme c'est pas permis.
Donc en gros, les lecteurs de VF auront de la chance. Ah bon. Puisqu'il y a de fortes chances que ce soit publié dans un hors-série.
Ouais, j'espère que Panini va le publier en une fois. Parce que vraiment, c'est à lire comme ça.
Et est-ce que vraiment on comprend bien pourquoi il y a cette séparation qui arrive à la fin de cet épisode-là ?
Oui, non. Je dirais les deux positions sont compréhensibles. Je dirais l'idée de Logan, c'est vraiment on va éviter d'envoyer des gamins se battre. Ce qui personnellement, moi, je suis un peu réservé sur l'idée, étant donné quand même que les X-Men ils se fightent avec des Sentinelles depuis qu'ils ont 15 ans, quoi. Depuis qu'ils sont tôt. Il y a aussi l'idée d'éviter de les transformer en tueurs. C'est aussi ça, de pas en faire des soldats alors qu'ils ont 15, 16, 17 ans. C'est, ouais. Voilà. Le problème, personnellement, je me rangerais plutôt du côté de Cyclope. Parce qu'on n'est plus à une époque où, il y avait des milliers de mutants partout, et à chaque fois qu'on tournait une page, il y en avait de nouveaux. Là, il y en a moins de 200, même s'il y en a de nouveaux qui apparaissent, on se dit, faut quand même faire le boulot pour que, dans 10 ans, il y a encore des mutants, quoi.
D'accord. Et donc, pour toi, ton verdict?
Alors, ça sera un check-it.
Ouais.
Surtout un check-it parce que Marvel a quand même bien spoilé le truc avant, quoi. Ça avait déjà commencé à aller se finir avant que ça commence.
Avant même que ça commence, ouais, c'est clair.
Voilà.
Même donc, moi qui n'ai pas du tout suivi la série, je sais comment ça se termine.
Voilà, oui. Et personnellement, je suis vraiment du côté de Cyclope sur ce coup-là.
Donc, un check-it pour l'épisode, mais pour le TPB en bail.
Voilà, si vous avez la chance de le lire en bail, ça se lit bien, c'est bien écrit. Et pour une fois, Cyclope n'est pas écrit comme un gros connard, ce qui change.
Ok, très bien. Jean-Lo, c'est à toi.
D'accord, donc comme Sam, je vais traiter aujourd'hui d'un comic que j'avais traité la dernière fois en Unspoken. Donc cette fois-ci, ce sera Batwing numéro 2 de Jude Winnick au scénario, au dessin Ben Oliver et à la couleur Brian Rebert.
On s'en fout, merci.
Ok. Et ben bah, vous avez
ça sera dilué dans 6 épisodes, on s'en tape de Batou.
Non, franchement, ça c'est parce que vous avez même pas lu le 1.
Si, oui. Moi je l'ai lu.
J'ai pas lu le 1.
Et bah Sam, tu devrais lire le 1. Je sais pas, tu changeras sûrement pas d'avis,
mais ça m'intéresse pas.
Ouais, alors, donne-moi envie d'aller lire le 2, Jean-Lo.
Ouais. Alors, rappelez-vous, au début du numéro 1, à la fin, pardon, du numéro 1, l'alter ego de Batwing dans le civil, alias David, je ne me rappelle plus.
C'est ce très professionnel.
D'où l'intérêt de prendre des notes.
Voilà, exactement.
Tout à fait. Donc, il se faisait tuer par Massacre, donc le grand ennemi de ce premier arc. Mm-hmm. Il se faisait massacrer, tout comme le reste de son unité de police. Donc, ça se terminait comme ça. C'était le gros cliffhanger. Pour moi, c'était assez prenant. Je me demandais comment ça allait pouvoir continuer. entre guillemets, puisque là pour moi c'était un peu morné le projet.
Et en fait, bien, ça ne continue pas. C'est un nouveau Batwing et on revoit ses origines. Et il se fait tuer à la fin.
Donc au début du numéro 2, on a un flashback où il y a une conversation entre Batwing et Batman, où en gros Batman lui dit que sa plus grande arme, c'est lui-même de toute façon. Batwing se rappelle de ça et au moment de sa mort, en fait, il va vraiment puiser dans toutes ses forces pour survivre. Et il va quand même réussir à survivre. Donc là, je vous raconte pas ce qui se passe au milieu, mais bon, disons que Massacre arrive à s'échapper quand même. Batwing survit et va se remettre de ses blessures. Et dans la suite du comic, on va avoir toujours la poursuite de Massacre. Et puis, d'un autre côté aussi, il y avait cette histoire des super-héros africains qui continuent.
Moi, c'est ça qui m'avait intéressé.
Donc, on continue à partir à la recherche de ces super-héros. Qui sont-ils? Que sont-ils devenus? On sait qu'ils s'étaient retirés. Maintenant, ils sont dans le civil, entre guillemets, mais on connaît toujours pas leur identité. Donc, d'un côté, on va avoir Batwing qui va les chercher. Et puis, surtout, on va avoir Massacre qui va partir à leur recherche, lui aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Ben, c'est toujours aussi bon. Les dessins sont toujours aussi beaux. La colorisation, moi, je m'en rappelle, il y avait quelqu'un qui avait dit qu'il n'avait pas aimé. Moi, je trouve ça toujours très bien. Je trouve ça toujours aussi bon. J'ai l'impression qu'il y a du relief dans ces dessins, alors que pourtant il y a pas d'effet de 3D.
Et moi, je trouvais que ça faisait trop roman photo, en fait.
Ah, je suis pas d'accord.
Non, mais non,
très réaliste.
D'accord.
Non, mais ça fait très réaliste, mais ça fait pas roman photo.
Je trouvais que ça faisait trop statique, en fait, qu'il y avait pas assez de mouvement dans le dessin.
Oh, non, j'ai pas trouvé, moi. Bref, disons que si on devait situer, alors je dirais pas que c'est du classique, hein, ça reste quand même original, mais ça correspond un petit peu à la fin du premier. C'était un petit peu l'arc de Batman avec Bane. Donc là, je n'ai plus le titre en tête, mais vous allez me le rappeler.
Nightfall,
voilà, merci. Et donc bah là, ça serait un petit peu Batman qui se remettrait de ses blessures et qui justement puiserait dans son mental pour s'en remettre.
Ouais, Nightcrawler et compagnie, quoi.
Sauf que c'est avec Batwing, quoi. Et franchement, c'est très bon, je vous le conseille. C'est pas un titre, un des grands titres, et peut-être que au final, ça restera pas, mais pour moi, c'était vraiment une des très bonnes découvertes de ce New DC 52. Et voilà, tout ce que j'espère, c'est que ça va continuer le plus loin possible.
Moi, le petit souci que j'ai avec cette série, c'est que d'une, alors c'est le côté africain qui me fait penser à ça, mais ça me fait penser à, justement, on en a parlé tout à l'heure, l'ennemi de Moon Knight, celui, rappelez-vous de l'ancienne série Vengeance of Moon Knight, voilà, le gars qui l'avait tué, enfin, qui l'avait laissé pour mort dans le désert.
Je sais pas, j'ai pas lu.
Non, mais je crois que c'est Busher, le mec. C'est celui qui se fait arracher le visage.
C'est ça, voilà, c'est ça. Qui ressemble étrangement à Chapelle aussi, pour les connaisseurs d'Image.
Ouais.
Ah, bref. Et ça me fait aussi penser à Powers, avec cette recherche d'anciens super-héros qui ont disparu, enfin qui sont arrêtés et qui se font massacrer. Enfin voilà. Ça me fait un peu penser à ces deux-là, et du coup je trouve qu'il y a un petit manque d'originalité. Alors bien sûr, c'est vrai qu'aujourd'hui quasiment tout, enfin peut-être pas tout a été fait, mais en tout cas il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et c'est difficile de trouver quelque chose sans dire ça. Ah tiens, ça me fait penser à ça ou ça. Mais voilà, c'est deux grosses influences qui sont quand même assez connues, et ça me dérange un petit peu, en fait.
Bah moi personnellement, je trouve que c'est vraiment, à part cette relation à Batman, mais sinon ça pourrait être un univers totalement différent, ça pourrait être une autre maison d'édition, et ça pourrait être, tu vois, par exemple chez Milestone. Mais je trouve que c'est son propre univers, il arrive vraiment à le faire vivre, et honnêtement tous les personnages cheval et l'intrigue, même si elle est classique, on recherche des héros disparus, et ben je trouve que c'est très très bien écrit. En tout cas, c'est peut-être pas très original, mais c'est très bien écrit.
Après, donc, John Winnie, qu'on aime, on n'aime pas, mais c'est pas un débutant, quoi. Donc, voilà.
Voilà. Et puis un petit plus aussi pour les différents motifs de chemise qu'on voit dans le comics, qui sont tous très marrants. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Juste pour cet argument, il faut lire ce comic.
La semaine dernière, c'était les cravates.
Donc un bail, hein, c'est ça, Jean-Loup?
Tout à fait.
Okay.
Ok, je passe à ma solo de la semaine. Ça va être Animal Man 2 par Jeff Lemire, mon petit favori, et Travel Foreman au dessin ainsi qu'à l'ancrage. On avait laissé le premier sur un cliffhanger assez monstrueux, dans tous les sens du terme.
De la mort qui sait.
Que la fille d'Animal Man, Maxine, réveillait les animaux morts. C'est-à-dire voilà. qu'elle avait des pouvoirs un peu comme son père, sauf que là, elle pouvait réveiller les animaux, et en plus, les animaux morts, donc on a des chiens squelettes qui marchent, des rats, des choses comme ça. Ce qui est quand même assez crade.
Flippant.
Ouais. C'est, en plus, le dessin de Travel Foreman sert bien le truc, parce qu'il met une ambiance vraiment très glauque, très ouais. très torturée, très sombre.
C'est clair. Et,
ça marche à merveille. Quoi. Donc, ce qui se passe, c'est que toute la famille s'en était rendu compte de ce petit problème-là. Elle fait ressurgir les problèmes d'Animal Man qu'on avait vu dans le premier épisode, c'est-à-dire les yeux qui saignent, sauf que là, en plus, il a carrément des tatouages qui apparaissent sur toute la peau. Mmh. Et à partir de là, ça commence à dériver vraiment dans le presque mystique, puisque les tatouages seraient une sorte de carte, et il faudrait qu'ils rejoignent un certain plan rouge, je me rappelle plus exactement le nom.
Ça s'appelle The Red.
Ouais. Ah, le rouge.
Ouais. Bah, tant que c'est pas une carte de la prison pour faire sortir son frangin, ça va.
C'est vrai que maintenant l'influence est tellement grosse.
Là, les tatouages, enfin, c'est quand même des tatouages. T'as l'impression que c'est du sang, hein. C'est pas des tatouages.
Ouais, on dirait c'était son système vasculaire, en fait.
Ouais, mais oui. Ça y ressemble énormément. C'est ses ouais. veines, on dirait, qui ressortent. Mais bon, la petite l'interprète comme une carte. Du coup, Buddy, donc Animal Man, va partir avec sa fille à la recherche de ce fameux Red. Cet endroit, où c'est en tout cas, et va essayer de comprendre un petit peu ce que voit sa fille pour essayer de sortir de toutes ces situations, quoi. Et on part dans un voyage assez bizarre, avec notamment les dernières pages qui sont super glauques. Les 3-4 dernières pages, c'est super torturé, c'est magnifique.
C'est très organique aussi.
Ouais.
Enfin,
oui,
organique, c'est le mot.
Ouais, hein. Ah ouais, c'est vraiment...
Ça prend un petit rip.
Ouais.
On voit donc qu'il y a aussi des ennemis qui veulent aussi s'emparer de ce fameux raid, mais c'est vraiment particulier, mais très très bon. Faut aimer l'ambiance glauque et dark, mais je sais pas, autant Justice League Dark j'ai pas accroché, autant là cette ambiance là me parle tout à fait.
C'est excellent, franchement. Et personnellement j'ai adoré.
Ouais. En plus il faut dire que il y a le côté un peu flippant que la petite fille connaît tout et elle y va tranquillement, innocemment on va dire, alors qu'on sent que c'est quelque chose qui est tout sauf innocent.
Mais Jeff Lemire joue sur la peur, voilà. Justement, ces enfants un peu savants qui savent tout, qui sont toujours très flippants dans la plupart des films. Où on voit,
tout à fait. Et c'est vrai que ça ajoute énormément à l'ambiance, quoi.
Ouais. La gamine est super bien caractérisée et superbement mise en image. Enfin, je veux dire, quand on les voit partir dans ce voyage, qu'elle a ses lunettes noires et tout, on dirait une petite aveugle, limite. Enfin, c'est vraiment très étrange, mais très très bon. Pour moi, c'est un méga bail, quoi. C'est vraiment la série à suivre.
Vous m'aviez donné envie, j'ai toujours pas lu, il est sur ma pile.
T'as un peu spoilé la fin du
Non, mais c'est pas grave, mais ça m'attire vachement, clairement.
Ouais, vraiment. Pour moi, c'est un bail aussi, hein, vraiment.
Ultra bail.
Ouais. Et je pense, ayant lu Swamp Thing également,
que c'est lié.
Que voilà, les choses sont liées. Et que
dans Swamp Thing, c'est le green.
Ouais. Là, c'est The Red. Et je pense que le type d'ennemi qu'il y a.
Mais je crois qu'ils ont annoncé plus... que ça serait lié.
Et il me semble aussi, oui. Il me semble également, parce que de toute façon, ça se sent. Hein.
Ce que vous ne savez pas, c'est que Jeff Jones est l'architecte derrière et que toutes les couleurs vont apparaître.
Non, mais et là, ce serait fort. En fait, Swamp Thing, c'est le monde végétal, alors qu'Animal Man, ça va être vraiment le monde
végétal. Animal, pardon.
Ça va être la faune, en fait.
Ah, sanguin, ouais. Quoi. C'est
y compris les humains, quoi.
Non mais complètement. C'est vraiment ça se sent de toute façon que c'est fait pour être ensemble. Et comme ce sont toutes deux d'excellentes séries pour le moment, c'est très bien.
Ouais, moi j'ai pas eu encore le temps de lire cette semaine le Swamp Thing, mais je compte bien le lire, quoi.
Il est beaucoup mieux que le 1.
Ouais. Bah le 1 j'avais pas super accroché, mais j'avais pas détesté. Enfin, je me suis dit bon, je vais voir la suite, quoi.
Oui, là, moi c'est pareil.
Clairement, avec ce que tu en as dit tout à l'heure, moi j'ai vraiment envie de lire le 2, quoi. Et, en plus, Sam qui dit que c'est très bien. Alors,
oui. mon dieu.
Non mais un revirement comme ça de la part de Sam, je me dis oh là là, il faut que je lise le 2, quand même. Bien, on va passer maintenant à quelques petites reviews express. Nono, qu'as-tu lu d'autre cette semaine?
Donc j'ai cette semaine, qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Pas grand-chose. J'ai lu X-23 numéro 15 par Marjorie Liu et Phil Noto au dessin. J'ai toujours un souci avec les dessins de Phil Noto.
Phil Noto, j'adore.
Pourtant, j'aime très, très, très bien. Bon, ça. Phil Noto, j'aime beaucoup.
Moi, j'accroche pas. J'en ai déjà parlé avec Sam. Mais de toute façon, la série X-23, j'adore le scénar. Le scénar est vraiment magnifique. mais j'ai toujours eu des soucis avec le dessin. Quand c'est Panotto, c'est l'autre artiste qui nous dessine du manga, je sais plus son nom, Sam, tu vas peut-être m'aider, Sakaieda, un truc comme
ça. Non, je l'ai pas en tête, là.
Donc voilà, c'est bon, j'ai toujours eu du mal avec les dessins sur X-23, mais là, le scénario est vraiment très très bon. Et le cliffhanger final, donne vraiment envie d'aller voir la suite, donc pour moi, c'est un bail.
Bah, j'ai bien aimé aussi. C'est un peu lent, mais c'est sympa. Disons que le truc, c'est la caractérisation du personnage principal qui est toujours très bonne.
Ouais, et il y a beaucoup d'éléments pour ceux qui n'ont pas une grosse connaissance de l'univers Marvel. Ça fait beaucoup de références au passé, mais c'est très bien expliqué et donc on n'est pas perdu. Et c'est ça.
Ça, c'est très intelligent, par contre.
Ouais.
Voilà. Parce que c'est bien de faire des références au passé pour les vieux lecteurs, mais les expliquer aussi, enfin, en tout cas, un minimum pour qu'ils puissent comprendre pour les nouveaux, c'est très intelligent. Surtout quand c'est pas imposé et que ça fait pas redondant écriture Stan Lee des années 60, quoi.
Non, là, c'est... voilà, il parle d'une possession de Spider-Man sous Richards. Et c'est bien expliqué. C'est expliqué comment ils ont été possédés, par qui, et que le méchant y revient, etc.
C'est la force Enigma. Voilà. Je savais pas du tout, et donc ça... Moi, ça m'a arrangé qu'elle fasse ce retour dessus.
Mais oui, carrément. Donc voilà, un bail.
Ok, Claire.
Alors, cette semaine, j'ai également lu le numéro 3 de Severed, qui est publié chez Image par Scott Snyder et Scott Tuft au scénario, et Attila Futaki au dessin. Donc, Severed,
j'ai failli la faire.
Oui, mais je me suis dit, avant que quelqu'un fasse la blague de la poterie, autant la faire moi-même, tu vois.
Alors, Severed, je sais pas, je crois que vous en avez déjà parlé un peu. Donc, donc voilà, c'est en fait, comique, on va dire, d'horreur, d'ambiance. C'est très long. Non, mais je
sens qu'elle va être beaucoup plus longue que la normale, en fait.
Je développe. C'est un comics très long qui pose vraiment une ambiance horrifique, mais vraiment comme dans les vieux films d'horreur. Et donc, on suit, en fait, un petit garçon, Jack, qui part à la recherche de son père à travers le pays au début du siècle. Et donc, il y a toute cette ambiance historique du début du siècle en Amérique avec le côté,
Début du 20e.
Oui, début du 20e, excusez-moi, oui. Début du 20e siècle en Amérique, avec notamment l'arrivée du train, beaucoup de changements. Et donc, on va suivre ce petit garçon. Parallèlement à ça, on suit également un homme qui, pour le coup, est vraiment l'archétype du personnage qui fait peur. Et je vais pas vous raconter ce qu'il fait, parce que ça va un peu casser. Et donc, si vous voulez, dans ce troisième épisode, on arrive au moment où la route de ces deux personnages vont se croiser.
Ah, c'est pas les mêmes, hein, attention.
Comment ça?
Le vieux type qu'il rencontre, c'est pas le...
C'est pas non, celui qu'on c'est l'archétype du personnage qui fait peur. Ça va se croiser, en fait. Si vous voulez, on est toujours en train de se demander ce qui va se passer. Est-ce que il y a le personnage qui va prendre le pas sur l'autre? Enfin, c'est vraiment toute une ambiance. Et moi, je suis vraiment fan de ça. Scott Snyder et Scott Tuft font une très très bonne narration. Les dessins d'Attila Futaki sont très spéciaux, mais ils correspondent parfaitement à cette ambiance un peu glauque. Et je dois dire que dans la lecture, ça m'a énormément fait penser à ce que j'avais pu ressentir en lisant Monster de Naoki Urasawa. C'est un manga, je ne sais pas si vous connaissez.
Oui, mais c'était beaucoup mieux.
Et Attends, tu vas pas me dire qu'après avoir lu les trois premiers tomes du manga, qui est en 18 tomes, je crois, oui. C'en était au même point. C'est aussi lent.
Ah non.
Ah si.
Pas du tout.
Si. C'est lent, Monster.
C'est super lent, Monster. Là, c'est parce mais que tu vois
les. C'est lent, mais il y a beaucoup de personnages. C'est pour ça.
Ouais, il se passe beaucoup de petites choses. On rentre dans la vie de beaucoup de personnages et c'est vraiment très bien. De toute façon, comme tout Urasawa, de toute façon.
Et pour moi, il y a vraiment le même parti. C'est le même parti pris de y aller lentement pour mettre une ambiance. Et là, je me rends compte que c'est une review express et que j'en fais des tonnes. Bref, oui. Severed, c'est super bien. Ça fait peur. C'est très bien. Achetez-le. C'est un bail.
Oui, j'ai vu le premier. J'ai bien aimé. Je dois lire la suite. Mais le premier m'a vachement emballé. Donc, j'irai voir la suite avec plaisir.
C'est marrant comme Snyder aime bien les ambiances début de siècle, hein, comme dans American Vampire.
Et puis comme dans Gates of Gotham.
Oui, aussi. Ouais, là, c'était fin de siècle dernier, donc, le siècle d'avant, en fait.
Ouais.
J'ai toujours du mal à me dire qu'on a changé de siècle.
Ouais,
putain, ça fait 11 ans pourtant. Mm. Bref, suivant, c'est Sam.
Action Comics 2, par Grant Morrison au scénario, Rex Morales pour une partie du dessin et Brent Anderson pour l'autre partie du dessin. Oui, parce qu'ils sont deux. Donc, en gros, on reprend la suite du premier épisode comme c'est le numéro 2. C'est assez logique.
Oui.
C'est mieux comme ça.
Ouais.
Superman qui s'est fait arrêter à la fin du premier, puisqu'il s'est quand même pris un train en travers de la gueule. Donc ça l'a un peu calmé, on va dire.
Oui, parce que Superman est plus faible en
Il est encore au début de sa carrière
et il n'a pas encore tous ses pouvoirs à fond.
Il découvre encore tous ses pouvoirs, donc il en est vraiment au début.
Ouais, j'explique pour ceux qui auraient pas lu le premier.
Voilà. Donc on le découvre dans une prison, une base militaire américaine, où il se fait torturer bien gentiment par l'exécuteur qui prend son pied comme c'est pas permis. Bah, notamment puisqu'il fait un sacré paquet d'expériences sur lui en fait pour tester les limites de la résistance de Superman. Uh-huh. Donc en gros, les premières planches, on voit Superman sur une chaise électrique se prenant des dizaines de milliers de volts. Donc ça fume un peu.
Ils auraient dû l'attacher les pinces.
Il lui envoie des gaz mortels, des trucs de dingue. C'est comme c'est pas permis. Et en fait, tout l'épisode, ça va être Superman qui tente de s'échapper, mm-hmm, avec Lois Lane qui fait son cirque pour pouvoir rentrer elle sur la base et dénoncer ce qui se passe. Donc c'est mieux que le premier épisode.
Oui.
C'est beaucoup mieux. Par contre, les changements de dessinateur, j'apprécie moyen.
Pareil.
Ouais. Greg Morales, c'est très bon, et Brent Anderson, je sais pas là.
Moins bon.
Disons que la tronche de Loïs, j'ai eu un peu de mal à la reconnaître au début.
Bah, elle est plus jeune. Mm. On va l'expliquer ça comme ça.
Ce qui est quand même bien, c'est que j'ai l'impression que Morrison essaye de faire un peu une synthèse de différentes origines qu'on a eues ces dernières années. Notamment, le Secret Origin de Geoff Johns. On retrouve des éléments un peu comparables. Donc c'est plutôt sympa.
Bah, il y a encore l'association General Lane, l'exécuteur, quoi.
Voilà, et John Corben qui apparaît aussi.
Ben oui, puis on sait ce qui va lui arriver, hein, pour ceux qui connaissent Superman.
Ouais, ça justement.
Ça, c'est un peu
par contre, la dernière page, est-ce le personnage auquel je pense?
Bah oui. Non, justement, moi je voulais rajouter, je l'ai eu aussi, j'ai trouvé ça très bien.
Ouais.
Par contre, les deux dernières pages avec les deux futurs personnages qu'on va voir dans les pages de Action Comics, je trouve ça un peu dommage parce que c'est toujours les mêmes. Par rapport à la dernière réécriture des origines de Superman et l'autre personnage par rapport à
John Byrne.
Non, j'allais dire à DCU aussi plus récemment, mais voilà, sans le comics, enfin même le jeu vidéo, mais.
Bah, je dirais qu'ils sont quand même incontournables.
Ils sont incontournables et puis c'est toujours, mais c'est des redites quoi, c'est un peu dommage.
Mais moi j'avais pensé, enfin notamment pour Corbin, j'avais pensé à John Byrne parce que c'était un des premiers ennemis qu'il avait fait apparaître dans son relaunch. Pareil pour les numéros 0 qui étaient censés faire des origines à l'époque de juste après Zero Hour, c'était encore une fois ce personnage là. Enfin voilà, moi ça me gave un peu que ce soit toujours le même quoi. Surtout ce personnage là en plus je l'aime pas.
Donc, oui, dans le Secret Origins de Jones aussi c'était encore lui une fois de plus.
Ben moi ça me dérange pas parce que vu que j'ai jamais lu de Superman à part de certains TPB sortis en VF, pour moi c'est des personnages que je découvre et ça me dérange absolument pas.
J'ai trouvé très bien par contre l'apparition du docteur Irons, hein.
Oui, dès le début c'est sympa.
Donc un mélange entre la technologie qu'avait développé Steel.
C'est sympa de voir que lui il est toujours là.
Ouais, donc, Corben. On verra. Je sais pas, en tout cas c'est sympa. Vous avez vu aussi la petite photo de Superman sur le journal, Superman qui soulève la voiture, le petit rappel à la première couverture.
Oui, comics 1, j'ai du bruit.
C'est très sympa. Je trouve que c'est bien fait, ça passe discret dans le paysage, mais c'est bien fait. Enfin voilà, ça c'est le petit côté iconique que j'ai trouvé sympa. Et il y a les backups surtout. Il y a les backups qui parlent des choses à venir. On voit des dessins préparatoires, des explications de Morrison et Rex Morales sur comment ils ont fait.
Ouais. Et sur les personnages aussi.
Ouais,
comment
sur
ils les
personnages.
Perçoivent.
Et on voit aussi des futurs dessins pour le futur arc par Jean A. Et ça a de la gueule.
Ouais, bah Jean A, c'est toujours de la gueule.
Oui, mais bon, on sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Des fois, les gens changent leur style.
Oh, bah lui, il a un style quand même bien défini maintenant.
Mais moi, j'ai préféré ce numéro-là.
Moi aussi.
Même s'il y a un certain classicisme qui finalement, on se dit avec le relaunch, ça change. C'est ce qu'on nous fait croire au premier numéro et au deuxième épisode. Finalement, on se rend compte que ça change pas tant que ça.
Bah, y a pas grand chose à, je dirais, dans les origines, y a pas tellement de choses à changer, puis tellement, ça a été tellement refait, les origines, que, à peu près toutes les idées qu'on pouvait traiter, ça a déjà été fait, donc,
peut-être que ça aurait été bien d'intervertir, peut-être quelques menaces, ou, lui faire des menaces
moins grosses,
moins dans la durée, en fait, parce que ce sont des personnages qu'on sait très bien, qui sont des personnages emblématiques de Superman, enfin, en tout cas, des ennemis emblématiques de Superman, qu'on va revoir dans 10 ans, si la série continue encore, on les reverra encore, ces personnages-là. Peut-être des personnages oubliables, en tout cas, au début. Avec en toile de fond des gros ennemis, mais des personnages plus oubliables, quoi.
Mais je dirais la chose qui change, c'est que, comme tu l'as dit, Superman est moins puissant. Donc du coup, il se retrouve tout de suite avec des gros ennemis, alors que lui, il débute.
Donc c'est peut-être que s'il y a aussi ça qui joue, voilà, en fait, que ça me paraît un petit peu abusif.
Enfin, donc, mais voilà, à mon sens, il y a plus de tension du coup, parce qu'on sait que Superman va pas s'en tirer facilement.
Et ça aussi, c'est un bon point vraiment de cet Action Comics, c'est que, enfin, c'est vraiment réussi le fait que Action Comics s'intéressera vraiment au passé de Superman à ses débuts, alors que Superman le titre s'intéressera à son présent.
Et ou s'intéressera pas du tout.
Et du coup, bref. Bon, tu pourras couper cette partie-là.
Tu punis Nono.
Les répliques inutiles. Bref. Non, mais que voilà, ça, on aura vraiment deux trucs totalement différents et non pas des arcs qui s'entrecoupent ou ouais. Voilà. Ça va être bien.
Mais par contre, ça va être un peu plus chiant pour les crossovers. C'est-à-dire que Action Comics ne participera pas aux crossovers.
Ouais. Oui, mais ça va rester non plus dans le passé en permanence.
Ouais, ça me paraît difficile aussi, quoi.
Ah, je pense que ce sera uniquement la première année pour.
Dans 10 ans, ça me paraît inconcevable de faire encore des trucs sur les origines, quoi.
Mais au moins la première année.
Quoi qu'avec des arcs en 6 ou en 8, on peut te faire durer très longtemps.
C'est Action qui écrit.
Parce que finalement, un arc, il se passe quoi? Allez, une semaine maximum, quoi, en temps normal. Alors que pour nous, il s'est passé 6 mois. Bref. On va passer à la suite. Un bail pour tout le monde.
Oui. Enfin,
pour tous ceux qui l'ont lu, je pense.
Oui, 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 carrément.
Ouais. Ok, bah pour moi aussi hein, d'ailleurs. Jean-Lo.
Alors moi en express, ce sera Black Panther, The Most Dangerous Man Alive, le nouveau titre, puisqu'il
putain,
n'est
alors
plus,
c'était déjà pourri de Man Without Fear, alors.
Voilà. Et donc c'est le 523.1 avec le scénario de David
Raymond. T'imagines Black Panther, The Most Dangerous Man Alive, 523.1.
Ouais, ouais.
C'est du n'importe quoi.
Eh, je veux un pins. Du coup, il va faire toute la taille de la veste. Excuse-moi, Jean-Lo, hein, mais c'est tellement ridicule comme nom.
Donc, David Lys au scénario, Jeff Tepalo au dessin, et à l'ancrage, Jeff Tepalo aussi, et non, c'est surtout à la couleur Jean-François Beaulieu. Voilà, donc pour résumer, disons que c'est une histoire de Batman. Hein, on a même le commissaire Gordon dans un coin, sauf qu'il lui a enlevé les lunettes pour pas qu'on le reconnaisse, mais sinon c'est le même avec l'impair, la moustache, les cheveux.
C'est pas le détective Kurtz qui était apparu dans Daredevil?
Ouais.
Si c'est ça.
C'est apparu pendant Shadowland.
Si c'est
oui,
ça, c'est lui.
Donc, en gros, c'est une histoire de Batman, sans Batman et sans les
voilà.
Batman.
Mais c'est exactement pareil, quoi. C'est vraiment Batman et ça en devient saoulant, quoi. Avec
c'est
un Black très
Man.
Joli costume de Black Panther qui a un iPhone donc sur le poignet. Hein, on ne sait pas trop à quoi il lui sert, mais c'est génial. Et bon, bref.
Ah, sûrement pas passer des coups de fil à Steve Jobs.
L'histoire, c'est dommage parce que pour 1.1 qui doit être un numéro.
Je viens de me prendre un putain de vent avec cette vanne horrible.
Oui,
je pensais au moins que ça ferait rigoler 2-3 gens, mais non, personne. Non. Bon, c'est pas grave. Je vais passer pour un salaud.
Non mais je vais la refaire, hein. C'est comme ça c'est moi qui vais avoir le crédit, mais il est à faune.
Non. Ah non.
Il vient de voler la vanne de Jean-Lo en fait.
Oh, il a fait hors antenne tout à l'heure.
Ouais. Bon bref. Donc je suis doublement plus remonté maintenant.
Qui dure 20 minutes.
Bref, non mais bah oui, justement, laissez-moi terminer. Pour 1.1, c'est pas bon du tout parce que c'est vraiment un ça raconte rien ou ça le raconte très mal en tout cas. Et puis je voulais juste parler un peu du coloriste qui les couleurs sont pas trop mauvaises, mais alors par contre il a un gros défaut, c'est qu'il doit éternuer de l'encre ou je sais pas ce qu'il fait, mais il y a plein de petits points partout sur les pages et ça doit être un style pour la tension, pour montrer la tension qu'il y a dans l'atmosphère, dans l'ambiance, mais c'est pas joli quoi, c'est parasite. Donc vraiment à éviter, hein. C'est un pass total.
D'accord.
Ok. Pour moi, ce sera le Red Lanterns numéro 2 par Peter Milligan au scénario et Ben S au dessin, Rob Hunter à l'ancrage. Et alors, c'est un numéro. Alors, le premier numéro, moi, m'avait plutôt bien intéressé. Je sais que c'était pas forcément l'avis de tout le monde. Je crois que Sam, t'avais pas super accroché.
Pour quelle série?
Red Lanterns.
Ah oui, pas du tout.
Suis Sam, ça fait peur.
Ouais.
Là, ça c'est la fin de la semaine, je suis pas crevé.
Tu l'avais lu, hein, toi, Jean-Lo, par contre.
Oui.
Et t'avais bien aimé?
Bien, mais c'était un des seuls cliffhangers qui m'avait déçu.
D'accord.
Ouais, moi aussi, j'avais bien aimé.
Il m'a largué quand il a commencé à faire son Laïus sur
les
codes des amants et tout. Je me dis, ça commence à devenir bizarre ce truc.
Ne lis pas le 2, puisque c'est un grosso modo un gros flashback d'Atrocitus. Quoi qu'on, j'ai du mal à situer si c'est un flashback ou si c'est le moment présent. Pour moi, c'est plus un flashback d'il y a pas forcément très longtemps, mais voilà. Et le cliffhanger du numéro 1 n'est absolument pas répondu. On part sur complètement autre chose. Atrocitus va repenser à une planète en conflit, il continue de parler à Crona, hein. Il parle de cette planète qui s'appelle Gan 9, où il y a un conflit entre deux races, enfin, une race qui était assez barbare et qui avait tendance à se fighter la gueule, et une autre race qui voulait arrêter ces conflits-là, qui venaient d'une autre planète. Et c'est, pour moi, c'est une grosse métaphore sur le conflit en Afghanistan, qu'il a essayé de nous faire là. Qui est plus ou moins bien vu, honnêtement. Pour moi, c'est un peu facile. Atrocitus va jouer le rôle du vengeur. Il est, à mon sens, en train de se transformer peut-être en spectre. Ce qui me dérange un peu, même si le spectre, c'est l'avatar de la vengeance de Dieu, et que la colère lui correspond à peu près. C'est pas ce que j'attends d'Atrocitus, quoi. Et là, il est presque en train de devenir une sorte de super-héros à la spectre, quoi. Et ça me gêne. Par contre,
c'est l'esprit, hein.
La décision finale qu'il va prendre est assez intéressante. Ça continue un peu dans l'esprit du premier, même si c'est un peu autre chose, et j'ai hâte de voir où ça va mener. En tout cas, je suis assez perdu parce que ça se barre sur différents chemins auxquels on ne s'attend pas forcément. Mais honnêtement, dans cet épisode, il se passe pas grand-chose. Donc, ça sera qu'un check-it, quoi. À ceux qui veulent vraiment suivre la série, ou fans de Peter Milligan, peut-être, qui va peut-être en déstabiliser plus d'un, d'ailleurs, avec cette histoire. Bon, après, c'est toujours aussi joli. Ça reste pareil.
Ben oui, j'irai voir, parce que j'avais bien aimé le 1, j'ai feuilleté le 2, je l'ai pas encore lu, j'ai pas eu le temps, et ça m'avait l'air sympa, donc je vais le lire consciencieusement.
C'est sympa, mais il se passe rien. Enfin, rien qui fait vraiment avancer les choses, quoi. C'est-à-dire que ça tient sur les deux dernières pages pour faire avancer l'histoire. C'est vraiment le défaut du numéro. Alors, on va refaire un petit tour de table assez rapidement, quoique pour le premier, ça va être un peu difficile.
Alors, pour moi, le deuxième tour de table, ce sera sur Batman Detective Comics numéro 2, avec Tony Daniel au dessin et à l'écriture, comme d'habitude. Ben, comme d'habitude, comme sur le premier, en tout cas. Et à l'ancrage, Ryan Wind et Sandu Florea.
Ouais, son encreur habituel, en fait.
Voilà. Ben, un magazine qui prend la suite du numéro 1, forcément. Batman, Bruce Wayne plutôt, prend du bon temps, avec une nouvelle nana qu'on connaissait pas et qui ne connaissait pas 5 minutes auparavant apparemment, et qui s'envoie en l'air au bout de 2 minutes 30.
Si, il a l'air de la connaître quand même.
Si, j'ai l'impression
que c'est pas, ouais.
Bon, elle s'appelle Wendy Rivers, ouais. C'est tout ce qu'on peut dire.
Voilà, et donc il s'envoie en l'air assez rapidement, et Batman reprend son enquête.
Assez rapidement, je suis pas d'accord. Hein. Apparemment, elle se pointe vers 2h15, et quand lui s'en va, c'est la nuit.
Ouais, mais tu sais pas ce qu'il fait en attendant.
À moins que la nuit tombe très tôt, genre elle tombe à 3h.
Voilà.
Je pense qu'il a pris du...
Mais non, on le voit fermer les volets en même temps.
Ouais.
Ouais, mais enfin, quand il la quitte, il fait nuit.
Ouais, mais il est endurant, hein, il est sportif.
Oui, c'est
Batman, non, attends.
C'est
Batman.
Attends, ouais. C'est pas n'importe qui. Donc, puis voilà, et en fait, ça prend la suite, c'est assez sympa. Le cliffhanger final, bon... J'y crois pas, absolument pas. C'est trop gros pour que ce soit vrai, en fait.
Steve m'a démontré que c'était pas possible.
En fait, c'est juste pas possible. Il suffit de bien regarder l'image. Il y a deux détails qui font que on se rend compte que c'est pas ça. Mais par contre, je trouve que l'image est aussi choc, voire peut-être même encore plus choc que celui du premier.
Graphiquement, c'est très fort. Graphiquement, c'est encore très fort.
Ouais.
Par contre, c'est clairement impossible, donc j'attends de voir le numéro 3 pour savoir où ça mène. On suit Batman sur son enquête sur celui qui se fait appeler le Dollmaker, donc celui qui enlève la face du Joker à la fin du 1.
La face, hein, pas la fesse.
Ouais, la face.
Peut-être enlever les fesses aussi, hein, c'est pas.
Ouais, peut-être. Et voilà, donc le scénario continue à se tenir. On est dans une enquête de Batman assez classique, je dirais. Un peu plus gore que d'habitude. Pour moi, c'est un bail.
Pour moi, l'intérêt du numéro, c'est que on ne sait pas cette menace, donc le Dollmaker, on ne sait pas vraiment à qui il veut s'en prendre. Est-ce à Batman ou est-ce à Gordon? Parce qu'on ne sait pas à qui il lance le piège, finalement.
Oui. Ah oui.
Le piège qui va attirer Batman vers la fin, et donc vers ce cliffhanger, c'est quand même Gordon qui reçoit l'appel au départ.
Ouais.
Batman est à côté, donc est-ce Batman qu'il cherche à tirer, est-ce Gordon? Voilà.
Pour moi, il a l'air d'avoir tout prévu, quoi, donc...
Il y a une scène assez intéressante où Gordon menace le docteur Arkham de le faire fermer.
Oui.
On sent qu'il ne l'aime absolument pas. Et je pense que si Tony Daniel se démerde bien, ça peut être une bonne relation conflictuelle par la suite.
Ouais, mais en même temps, voilà, ce que dit docteur Arkham, c'est vrai, c'est que personne d'autre ne veut ses patients et que s'ils ferment l'asile, ils vont être bien dans la mouise, quoi.
Ouais.
Oui, il y a juste un truc qui me gêne, c'est le nom du détective.
Comics?
Gordon.
Non, le nom du flic, pas du détective, du flic qui vient aider Gordon, il s'appelle Harvey.
Oui, Harvey Bullock.
Harvey Bullock.
Ouais. Bah, je le connaissais pas avant, parce que...
T'as jamais regardé le dessin animé Batman?
Bah oui, mais je suis un nouveau lecteur d'essai.
Et même moi, je le connaissais alors que je...
Il était dans la série animée.
Ouais, la série animée, tu l'as jamais vue?
Non.
Bah, non, 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 mais alors là, Nono, c'est inadmissible.
Il est déjà dans les années 80.
Ça me dérange un peu qu'il s'appelle Harvey, en fait.
Il y a un atelier couture qui va ouvrir, je te conseille d'y inscrire et d'arrêter les comics.
D'accord, ok.
Non, mais pourquoi ça te dérange,
Harvey? Pourquoi ça te dérange?
Bah, Harvey, double face, Harvey Dent.
Ah ouais, il y a personne d'autre qui s'appelle Nono.
Non, il existe suffisamment de prénoms dans le monde pour pas donner deux fois le même prénom dans la même série. C'est tout.
Ah mais c'est un vieux personnage. Hein.
Ouais. Ah oui, non, ça fait vrai. Il ne vient pas d'être inventé.
Un mec qui s'appelle Bruce, quoi.
Ouais, mais enfin, Batman a tendance à l'appeler Bullock plus que Harvey. C'est vraiment Gordon qui l'appelle Harvey.
Hein. Ouais.
Parce qu'ils sont potes, mais généralement, tu l'entends plus souvent appeler Bullock que Harvey.
Bah, moi, nouveau lecteur de Batman, ça me dérange. Voilà.
D'accord.
Très bien. C'est noté, monsieur.
On note ça, mademoiselle.
Un bail?
Oui, un bail, tout à fait.
Ouais. Pour les autres qui l'ont lu, bon, pour
oui,
moi,
pour
c'est
moi
un
aussi,
bail.
C'est un bail, oui.
Je quitte.
Ça m'étonne, Daniel. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Le premier, c'était un pass.
Le problème, c'est que j'ai pas du tout réussi à rentrer dedans. Ça m'intéresse pas.
Donc, je vais refaire ma vanne qu'on avait fait avant d'enregistrer, hein, et que Nono m'a dit, faut que tu la refasses pendant le podcast. Donc, c'est Bruce Wayne, lui, qui est rentré dedans.
Oui.
Voilà. On réutilise les vannes, hein. Ça fait moins instantané, mais c'est pas grave. Mais excuse-moi, continue, Sam.
Voilà, j'ai pas du tout réussi à m'intéresser à l'histoire. Plus je trouve le dessin encore moins bon que dans le premier. La nouvelle copine de Bruce Wayne me gonfle, mais pas dans le bon sens.
Ouais, il en a plusieurs, hein. Il en a une par série.
Oui, à mon avis, c'est pas la nouvelle copine. Hein. C'est
il a une meuf par série, c'est pour ça qu'il a autant de titres.
Il a intérêt à être endurant.
Bruce Wayne est polygame. Ça le dérange pas en plus. Le mec a quand même le super sens de la justice et de la morale, et il trompe toutes ses meufs. C'est quand même bizarre.
Voilà, donc personnellement, j'irai pas voir le 3, et ça sera... je pense que je me contenterai uniquement de Batman et Batman et Robin, comme série Batman.
Ok.
D'accord. Claire ?
Alors moi, j'ai également lu cette semaine Huntress. C'était donc... c'est un numéro 1 qui n'a pas été numéro 1 le mois dernier. Donc je ne connaissais absolument pas le personnage de Huntress.
Alors, on va préciser que c'est une mini hein, en 6. Déjà.
Ouais, peut-être, j'en sais rien.
Ah bah non, mais je
précise, c'est une mini
d'accord. En 6. Donc c'est une mini en 6, les gens. Donc c'est écrit par Paul Levitz, dessiné par Marc Osto et ancré par John Dell. Donc en fait, on va suivre le personnage de Huntress qui débarque en Italie, qui vient sauver en fait des... qui vient en fait plutôt enquêter sur un conteneur dans un bateau. Et en fait, en ouvrant le conteneur, elle va se rendre compte qu'il y a des armes et des jeunes filles en fait arabes suite aux révolutions arabes qui sont arrivées, et ce conteneur était à destination de Gotham, donc quand même pour que ça relie quelque part, hein. Et donc en fait on va commencer l'enquête avec elle, de savoir d'où ça vient, pourquoi, qui est derrière tout ça, et puis avec le personnage de Huntress, qui est un personnage féminin assez rentre dedans, je trouve, et j'ai bien aimé justement la caractérisation de ce personnage. Donc voilà, je ne connaissais pas, j'ai été conquis après la fin de ce premier numéro, j'irai voir le deuxième, donc c'est un bail.
Ok, alors, soit tu connais pas le personnage de Huntress, est-ce qu'on a son nom qui est donné ?
Elena.
Parce qu'en fait, le problème de Huntress, c'est qu'elle existe sur deux terres.
Ouais. Alors, moi, c'est pas ce qui m'a dérangé.
C'est l'intérêt aussi de cette mini-série, parce qu'on aura la réponse à la fin, de savoir quelle Huntress c'est. Est-ce que c'est la Huntress de Terre 1 que l'on connaissait juste avant le relaunch, ou est-ce que c'est celle qui date d'avant Crisis Infinite Earth, et qui était celle de Terre 2, et qui était donc l'enfant de Batman et Catwoman dans cette réalité-là.
D'accord.
Donc à la fin de cette mini-série, on saura, puisque on sait très bien qu'il va y avoir une mini-série de la JSA qui va se passer sur Terre 2, écrite par James Robinson. Donc on ne sait pas pour le moment à quel univers elle appartient.
Elena, je viens de regarder sur Wikipédia. Ah oui, non, c'est qu'elles ont toutes les deux le même nom.
Eh oui, c'était.
Ah.
Ils vont entretenir le mystère jusqu'au bout.
Ils n'ont pas donné
salaud.
Son nom de famille.
Eh oui, c'est des malins. Jean-Lô, tu l'as lu ou pas ?
Non.
As-tu envie de le lire ?
Oui.
C'est du Paul Levitz, monsieur, quand même.
Ouais, non, ouais. Non, du coup, j'ai plus envie.
Pour un fan de la Légion, monsieur, ça l'a fait mal, hein. Ouais, je dis ça comme ça.
Pardon?
Pour un fan de la Légion.
Oui, mais justement, la Légion de Paul Levitz, c'est pas forcément ce que j'ai préféré, mais bon, bref. Non, mais oui, je suis quand même curieux, donc j'irai le lire.
Ok, Sam.
Est-ce que je pense de Huntress ou ma review?
Parce que, comme tu veux.
Bah, les deux. De toute façon.
je vais enchaîner les deux. Sur Huntress, alors déjà, c'est un bon gros pompage de ce que Greg Rucka avait fait. C'est-à-dire que l'histoire en elle-même, c'est un truc qui avait déjà été fait dans la mini-question qu'il avait faite. C'est la même histoire.
D'accord.
Et sur la caractérisation de Huntress, alors Claire découvre le personnage, je lui conseillerais la mini de Greg Rucka, Cry for Blood, qui est excellente. Et qui est bien meilleure que cette double. Voilà.
Alors, c'est marrant parce que il y a des scénaristes, on sait tout de suite l'avis de Sam. Tony Daniel, pas bon. Greg Rucka, bon.
C'est ça.
Non, mais franchement, Claire, tu vas aimer cette mini là.
D'accord.
Huntress, Cry for Blood, c'est très bon.
D'accord, mais écoute, j'irai voir ça.
Donc pour ma seconde review express, ça sera Invincible 83 de Robert Kirkman et Ryan Otley. C'est Invincible qui reprend sa vie après la ville tributoire. Et je dirais que c'est très bon, très bon, très bon. C'est excellent. Et surtout, il y a 4 milliards d'idées dans ce comic book. C'est surtout ça. Il y a 150 histoires par case. C'est, voilà. C'est juste très bon.
Donc c'est un bail.
C'est un ultra bail. Franchement, ça fait plaisir de voir qu'après plus de 80 épisodes, cette série déborde d'idées.
Mais moi, c'est une série, honnêtement, enfin, j'arrête pas de lire partout, enfin, vous en faites des reviews aussi, des Unspoken et tout. C'est vraiment une série un peu comme The Walking Dead. C'est la série que j'ai envie de lire, mais il y en a tellement avant qu'il faut lire que du coup, je me dis, je ferai ça quand je serai en vacances.
Ouais, mais non,
ouais, ou je ferai ça quand j'aurai de l'argent pour acheter tous les TPB, quoi.
Ouais.
Si.
J'allais dire ça se lit vite, mais oui et non, parce que dans Invincible, il y a quand même des épisodes où il y a tellement de textes que tu mets du temps à les lire, mais enfin,
c'est tellement bon que
tu peux les enchaîner par dizaines, quoi.
Pardon ?
Tu peux les enchaîner par dizaines, en fait, sans t'en rendre compte tellement c'est bon et tellement t'es accroché.
C'est ce que j'ai fait moi.
Bah, de toute façon, enfin voilà, c'est quand c'est en TPB que je les achète déjà, donc c'est plus facile à lire d'affilée.
Bah, c'est une série que je recommande aussi.
Donc Nono, tu sais ce qu'il te reste à faire.
Ouais, bah ouais, mais c'est sur la liste.
Voilà, c'est deux listes.
Comme beaucoup ouais. D'autres choses, ouais. Comme Huntress juste avant, moi j'ai envie de le lire, mais voilà, j'attendrai le TP,
lire,
je pense.
Faut lire de Rucka, apparemment.
Oui, faut tout lire de Rucka, de toute façon.
Comme ça s'est fait.
C'est un commandement.
Jean-Lo.
Alors, donc pour moi, la deuxième Review Express sera consacrée à Ghostbusters numéro 1 chez IDW avec
je chante
Moment de solitude pour Claire.
C'est pour changer, d'habitude c'est toi.
Donc le pool artistique sera Eric Burnham à la machine.
Déjà au début j'ai cru que tu allais nous parler de poulet. Si tu commences le pool.
Voilà. D'accord, parce que je pensais qu'il avait une lessive à faire, en fait.
Voilà, au crayon et à l'encre, c'est Dan Schoening, et aux couleurs, Luis Antonio Delgado. Que dire, c'est super bon. Les 6-8 premières pages sont énormes. C'est vraiment un comic book de geeks, pour les fans de l'univers Ghostbusters. Rien que pour ces 8 premières pages, il faut l'acheter. C'est hyper référencé, justement, c'est génial. Et puis le reste du comic book est aussi très dans l'esprit Ghostbusters classique, on va dire. Donc là, je mets dedans les films, les dessins animés, et puis le jeu vidéo assez récent aussi qu'il y a eu. On retrouve vraiment cet esprit, donc on prend beaucoup de plaisir. Juste un petit défaut, ce sont les dessins qui sont un peu trop cartoon, parce que ça s'adresse à tout public. Mmh. Et puis le cliffhanger qui est pas super passionnant, mais honnêtement c'est pas pour ça que j'irai pas acheter le prochain, parce que ça vaut le coup. Et en plus à la fin on a un petit backup de 3 pages assez intrigant, donc je sais pas comment ça se continuera, si ça sera toujours des backups à la fin ou si les deux histoires vont faire un seul plot dans le comic, mais franchement, il faut l'acheter, quoi. Si vous êtes fan de la franchise Ghostbusters, ne passez pas à côté, c'est un petit bijou.
Très bien. Dernier review express pour moi, ce sera le Justice League International numéro 2, scénarisé par Daniel Guns, Aaron Lopresti au dessin, Matt Ryan à l'ancrage, pardon. Je me rappelle plus qui l'avait lu le mois dernier, le premier.
Non.
C'était quoi?
Justice League International. Vous suivez, ça fait super plaisir, les mecs.
Non, mais il y avait toi qui l'avais lu.
14, moi.
Non, moi, je l'avais lu, j'avais bien aimé. Et
j'avais commencé et je suis pas arrivé au bout.
Moi, j'avais pas envie.
Ok, bon, c'est... Donc, on reprend pile poil là où on en était. Le quartier général de la Justice League avait explosé par une bombe. Et la Justice League était au Pérou, attaquée par un espèce de robot géant qui me faisait furieusement penser à un Metal Man. C'est pas ça. ça y ressemble étrangement. Un robot géant quand même, méga géant, hein. Genre Goldorak, c'est une tapette à côté. L'équipe se fait salement malmenée, puisque de toute façon, il n'y a aucune coordination dans l'équipe, jusqu'au moment où Ice est blessé, et là, Booster Gold va décider de battre la retraite, puisque bah il veut pas laisser quelqu'un mourir, en fait. Il préfère fuir plutôt que perdre un de ses équipiers, ce qui provoque quelques réactions pas toujours sympathiques venant de ses soi-disant coéquipiers. Finalement, Guy Gardner, voyant ça, puisque l'équipe est suivie par la télévision, hein, décide de se joindre à l'équipe. C'est plutôt sympa, on se rend compte que finalement, il n'y a pas qu'un seul géant, il y en a plusieurs, et ça va attirer l'attention d'autres espèces. Il se met en place pas mal de petits trucs, ça fait très vieux comique, façon années 80-90, mais c'est aussi pour ça que c'est bon. Moi, j'apprécie, il y a de l'humour, il y a toujours cette espèce de relation conflictuelle entre August General Iron, le super-héros chinois, et Red Rocket, le super-héros soviétique, qui s'en mettent plein la gueule. C'est très drôle, Booster Gold est plutôt bien mené, en même temps, c'est Dan Jurgens qui connaît bien le personnage. Pour moi, c'est du tout bon. Ça reste un style plutôt ancien par rapport à ce qu'on a l'habitude de lire aujourd'hui, notamment quand on voit tout ce relaunch, mais j'aime bien, quoi. J'aime beaucoup. Pour moi, c'est un bail.
D'accord. Bah c'est voilà. Moi ça m'a donné envie de le lire.
Moi j'avais pas accroché du tout au premier et là ouais j'irais peut-être jeter un coup d'œil mais sans plus quoi.
Là c'est vraiment beaucoup de relations entre les personnages et Batman a un rôle très important et un énorme soutien à Booster et c'est agréable de voir un Batman pas gros connard quoi.
Ouais.
Un Batman sympathique, c'est super agréable. On a presque l'impression que c'est Dick sous le costume, plus que Bruce Wayne.
Le premier m'avait pas attiré drôle. Et le deuxième m'attire pas non plus. C'est vraiment pas une série qui m'intéresse.
Mais bon, je pense qu'il faut quand même connaître un tout petit peu l'univers DC pour arriver déjà à replacer un peu les personnages. Mmh. Ou avoir lu Justice League Generation Lost. Voilà, quelqu'un d'autre veut ajouter un petit mot rapide sur une petite série?
Avengers 1959. Vas-y Jean-Loup, je te la laisse.
Non, vas-y, parce que j'en ai d'autres, moi.
Non, mais t'avais une imitation à nous faire.
Attention, préparation physique.
J'ai pas aimé. C'est de la merde.
Voilà. Clairement, c'est vraiment pas intéressant. C'est du word-checking. Les dessins sont très moches.
Ah oui. C'est un optimisme.
L'équipe qu'on va suivre, Bloodstone, Kraven, Namora, Sabretooth, Silver Sable et Dominique Fortune, j'en connais pas la moitié, donc ça m'intéresse absolument pas d'aller voir le numéro 2.
Eh ben, moi, tu vois, l'équipe me donne quand même envie d'aller voir, parce que je me dis, qu'est-ce que ces gens-là foutent ensemble?
Ouais.
Mais voilà, bon, c'est du War Check-in, on sait à quoi s'attendre hein, quand on connaît un tout petit peu le milieu du comics. Ça, généralement, ça plaît ou ça déplaît totalement, hein, il n'y a pas d'entre les deux.
Personnellement, passer l'intrigue de savoir pourquoi ces personnages sont ensemble, ça vaut vraiment pas le coup. À la rigueur, moi qui voulais me torcher avec, je te le passerai avant. Et puis,
tu prendras les pages paires, je prendrai les pages impaires.
Voilà. Ok. Quelqu'un d'autre a autre chose à ajouter?
Oui, à la rigueur, Thunderbolts numéro 164. J'ai pas suivi du tout les anciens épisodes. Vite fait, le pitch, c'est les Thunderbolts se retrouvent dans le passé pendant la Seconde Guerre mondiale, donc un pitch classique, on va dire. Mais étonnamment, par rapport à d'habitude, j'ai adoré. Pourtant, j'ai pas lu les anciens numéros, mais je veux dire, j'ai adoré cette idée, puisque d'habitude, on sait qu'ils font vachement attention à pas trop bouleverser le passé pour pas que ça ait des répercussions dans le présent. Et là, du fait que ce soit quand même des vilains repentis, on va dire, bah ils s'en foutent un peu, quoi. Donc ils se disent bon bah on verra bien ce que ça donnera, on s'en fout, quoi. Et puis au niveau dessin, il y a un côté Mike Mignola sur certaines pages. Alors je sais pas si c'est le fait qu'il y ait des nazis dans l'histoire, mais j'ai trouvé ça assez sympathique aussi. Donc on va dire un check it.
Toujours Jeff Parker au scénario?
Oui, c'est toujours Jeff Parker au scénario, accompagné de son compère Kev Walker au dessin.
Ouais, bah j'ai l'impression que Jeff Parker maîtrise bien l'ambiance rétro, comme ça on a vu Agent of Atlas. Bizarrement, là, Seconde Guerre mondiale, ça a l'air de bien passer.
Ouais, franchement, honnêtement, là, ça change de d'habitude. Vraiment, je trouve que c'est beaucoup plus détendu que d'habitude, quoi. C'est génial. Enfin, c'est génial. C'est pas mal.
Ok. Moi, j'ai lu le Green Arrow numéro 2, J.T. Krull au scénario, Dan Jurgens au dessin et Georges Pérez à l'ancrage. Mais moi, j'aime bien taper dans le vieux, hein. Le Dan Jurgens, Georges Pérez, je prends, tu vois, bizarrement. Ouais. On a un petit combat contre Limelight au départ, et puis l'équipe qu'il y avait dans le numéro 1 qui avait un peu pourri la vie de Green Arrow, qui avait finalement réussi à mettre en prison. enfin que Green Arrow avait réussi à faire mettre en prison, se sont échappés et décident de se venger sur Oliver Queen. Moi j'aime bien cette nouvelle ambiance, même si c'est vraiment très 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 différent du personnage qu'on a l'habitude de connaître. Il est plus jeune, il n'est pas tout seul, il a un staff technique, une espèce d'oracle qui lui donne des infos en direct, etc. Un mec qui développe des flèches, et ça me paraît super logique. Oliver Queen, c'est quoi? C'est un mec qui est milliardaire, qui a pas forcément fait beaucoup d'études ou quoi que ce soit, et le mec arrivait à faire des flèches super balèzes. Et ça me paraissait illogique. Là, ça me paraît logique, il a un technicien, un scientifique dans son équipe, qui lui développe des nouveaux gadgets, etc. Moi, ça me plaît. Après, bon, c'est pas non plus super super bon. Disons que c'est un bon check-it, quoi. Et le prochain numéro, on nous annonce Black Canary. Donc j'attends de voir ce que ça peut donner. Bon, un petit check-it, ça, c'est sympa, quoi. Si on aime bien, après le dessin un peu old school, Dan Jurgens au layout, et puis George Perez qui termine, on a le mélange des deux styles qui vont plutôt bien ensemble.
Bah, tu vois, moi, bizarrement, on m'a beaucoup critiqué pour avoir aimé Superman, et j'ai pas du tout aimé le premier Green Arrow, et c'est bizarre, mais j'accroche pas du tout, quoi. Après, effectivement, quand tu me parles de Black Canary, ça me donne peut-être envie d'aller voir le 3. Donc si j'arrive à feuilleter le 2, je le ferai, mais pas de là à l'acheter, quoi.
Ouais, ben disons qu'il est en mauvaise posture à la fin, voilà. Quelqu'un d'autre a un autre petit mot à ajouter sur un comic de la semaine? Très rapidement.
Ben moi j'ai commencé à lire la mini sur Pingouin là, Pride and Prejudice. Et, alors c'est super noir, mais c'est sympa à lire.
Ouais. C'était qui?
C'était Kyle Higgins au dessin.
Au scénario plutôt.
Au scénario, oui. Mm-hmm. Et au dessin, Simon Koudansri.
Ah oui, le dessinateur de Spawn, ouais.
Ouais. Très bon. C'est très beau au dessin. Par contre, je le dis, au scénario, c'est super, super noir. Donc, le style du dessinateur convient bien.
Est-ce que ça se passe plutôt dans cette nouvelle continuité, ou c'est totalement hors compte? Ah, d'accord.
C'est dans la nouvelle continuité.
On a des origines un peu nouvelles pour le Pingouin.
Oui, parce que là, on reprend vraiment au début. Disons que moi, personnellement, les origines, je les connaissais pas trop, parce que c'était rarement expliqué. Donc, là, on revient vraiment à sa naissance dans la famille Cobblepot, et toute son enfance, et on explique comment il en a bien chier. Donc du coup, il fait chier le monde.
Check it ou bail alors?
Ça serait un bail. C'est sympa.
Très bien.
Par contre, attention, c'est pas vraiment pour les ados. Soyez prêts, hein, parce que il y a des scènes assez hardes.
D'accord. Et ben, faites attention. Nous, ça va, on est majeurs à Maxine, on s'en fout.
On peut tout regarder. On a déjà tout vu.
Ouais. On en rajoute une bonne couche. Eh bien, c'est tout pour cette semaine. Ça fait déjà pas mal.
Oui, quand même.
Pas mal de bonnes choses, hein. Très peu de passes. En même temps, je pense qu'on a aussi un petit peu sélectionné nos lectures. Bon, à part Jean-Lô, qui nous a volontairement mis un pass, et Nono aussi avec son New Avengers 1959.
Ouais.
Donc, oui, bah oui, parce que faut aussi conseiller les lecteurs dans les deux sens, quoi.
Le fameux Black Panther, The Most Dangerous Man Alive 523.1. J'ai déjà de perdre 12 minutes de conclure rien qu'en disant le titre. C'est bon. On se retrouve la semaine prochaine. Et donc, eh bien, merci Nono, Claire, Sam, Jean-Lô d'avoir pris un petit peu de temps pour enregistrer ce podcast.
Mais de rien.
Mais ça nous a fait plaisir.
Et puis, on se retrouve donc la semaine prochaine. Surprise, surprise, qui sera présent? C'est la bonne petite blague. Qui est là pour le podcast, s'il vous plaît?
Mais de toute façon, nous-mêmes ne savons pas. Donc,
il faut vous dire qu'on prévoit vraiment, mais deux jours à l'avance, même pas. Qui participe? Même là.
Mais bon, c'est ce qui fait aussi la magie de Comic City. Rajoute des tonnes.
Voilà. À l'arrache, c'est sympa.
Comme toujours, vous pouvez nous retrouver bien sûr sur Facebook, sur Twitter, vous pouvez nous laisser les commentaires sur le site, vous pouvez réagir aux comics dont on a parlé, aux comics dont on n'a pas forcément parlé, que vous avez lu, qui vous ont intéressé ou que vous avez détesté. On a aussi envie de savoir un petit peu ce qui vous plaît ou pas.
Tout à fait, continuez à faire comme vous avez fait pour le dernier, à nous faire vos petites reviews à vous aussi.
Les derniers en fait, hein, puisque c'est vrai que tout ce mois de septembre...
Sur les comics City et les Weekly.
A vraiment donné lieu à pas mal de commentaires, et c'est vraiment très intéressant de pouvoir lire vos avis, de pouvoir échanger un petit peu avec vous.
Ouais. Et puis notre auditeur aussi, quoi, c'est bien de savoir.
On reçoit moins de mails en fait, mais finalement c'est pas plus mal parce que j'ai l'impression que surtout maintenant vous faites plus de commentaires, donc vous avez moins peur de parler juste à nous, notre équipe, et que vous n'hésitez pas à discuter avec les autres auditeurs aussi, et ça c'est bien.
C'est vrai qu'on n'a pas forcément tous le temps de toujours répondre à tous les commentaires, parce qu'on a vraiment pas mal de choses, déjà la vie qui prend le temps,
tout simplement.
La vie autre que les comics et les podcasts et le site qui prend déjà pas mal de temps, les articles à écrire, les montages à faire, les épisodes enregistrés, les lectures aussi, hein, parce que
il faut lire.
Et ça aussi, ça prend du temps. Donc c'est vrai qu'on répond pas forcément, mais rassurez-vous, tous les commentaires sont lus.
Ah oui, carrément.
J'insiste bien là-dessus. Pensez pas que, voilà, on lit pas forcément. C'est vraiment, quand on répond pas, c'est qu'on n'a pas forcément le temps.
Moi, je les lis une fois par an.
Mais je les lis tous d'un coup.
Je les lis tous. Je me prends une semaine de congé, rien pour lire les commentaires.
Très bien.
Si tu me permets de rajouter, Steve, je voulais juste dire, en l'honneur de Steve Jobs, mettez aussi des commentaires sur iTunes. Voilà.
oui, iTunes, tu fais bien d'en parler. C'est vrai, vous pouvez retrouver des podcasts les plus récents sur iTunes, les 50 derniers à peu près, jusqu'à ce qu'on arrive à régler ce problème qui nous empêche de mettre plus de 50 podcasts. Un jour, peut-être, on y arrive.
Mettez 5 étoiles, même si vous n'aimez pas, vous expliquez pourquoi. Mettez 5 étoiles.
C'est vrai, je le dis pas assez souvent. Mettre une note sur iTunes sur le podcast nous permet de gagner en visibilité. Ça vous prendra 2 secondes. Nous, ça nous fera gagner un petit peu en visibilité, donc de vos auditeurs potentiels, plus grande cible, et voilà. Ça peut
des nouveaux copains
aider.
Pour discuter avec vous.
Et puis aussi, peut-être, attirer l'œil de quelques sponsors, ce qui peut nous rembourser quelques frais, notamment des frais de serveur, etc. Et voilà, c'est toujours appréciable.
Ouais.
Bon, ben, voilà, je crois que ça fait 12 minutes, là.
Le message est passé. Bon, très vite, parce qu'on a encore un peu débordé sur le temps, mais en même temps, on était 5, hein. Ça prend plus de temps, c'est normal.
Et là, je vois sur iTunes, en note moyenne, on est à 5 étoiles, quand même. Hein.
Eh ben, c'est magnifique.
C'est pas mal.
Merci.
Merci à ceux qui l'ont fait.
Ouais.
Et donc, sur cette joyeuse note, un petit mot de la fin. Quelqu'un aurait-il un petit mot de la fin, tiens?
Carnaval.
Merguez.
Eh ben, dodo. Voilà. Procrastination.
Et je n'ai pas compris le mot de Sam.
Dodo.
C'est une bonne idée aussi, puisqu'il est actuellement 23h30. Voilà.
Dodo, c'est une grosse semaine.
Nous étions donc le vendredi 7 octobre, hein, je répète la date.
Mais n'hésitez pas à aller sur Facebook également pour voir les photos, par exemple, parce que là, avec le Paris Manga, Jean-Lô a fait un article, il a mis quelques photos, mais c'est vrai que on fait des albums spéciaux où on met les photos des festivals, des festivaux, hein, Nono. Donc,
Et des photos de nos fesses aussi.
Oui, mais celles-là, elles sont seulement pour nos amis très proches.
Ah oui, c'est pour le groupe fermé qu'on a fait.
Voilà, c'est ça. Donc,
le Comic City avec le X en majuscule.
N'hésitez vraiment pas à aller sur Facebook aussi. Je pense que c'est accessible même si vous n'êtes pas sur Facebook, pas inscrit. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et si vous n'aimez pas la page,
cliquez sur j'aime.
Voilà, cliquez sur On a dépassé les 300 là, donc wouhou, attention.
Oui, et d'ailleurs, on a aussi battu un record d'audience sur le mois de septembre, autant audience de visite sur le site que d'audience de podcast. Et merci à tous, ça nous fait vraiment très très chaud au cœur.
Ouais, merci à tous.
Et
les
ailleurs points. Aussi.
Mais surtout au cœur.
bien sur cette joyeuse note, on va se quitter. On se dit à la semaine prochaine.
Faites pour les survivants.
Faites de beaux rêves, dormez bien, lisez plein de comics, amusez-vous bien et puis bah pour rester sur la même touche que Nono, je dirais bonne bourre.
Ouais. Oui.
Bah, autant que Bruce Wayne.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Bye bye.
Bye. Bye. Bye.